Ok, bonsoir, merci d'être là avec cette rencontre avec Nathalie Stevens. Je vais peut-être commencer par te présenter un tout petit peu, Nathalie. C'est un peu gênant, mais je vais le faire quand même. On va commencer après une discussion sur ton œuvre, et puis qui sera ponctuée de certaines lectures que tu feras d'extraits de tes livres. Donc, je vais y aller par le fait que tu as écrit, peut-être, je n'ai pas bien compté parce que je n'ai pas compté bien jusque-là, mais tu as écrit peut-être 17 ou 18 livres, si, ce qui est assez impressionnant. Et tu as dit, et on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais ils étaient déjà tous là. Hein, ils étaient déjà là avant même que je les écrive, donc tu avais l'impression que tu as écrit que ce qui était déjà là. Et tu as dit aussi, quelque part, que le premier livre n'a pas changé ta vie et que finalement, il y avait une marge très infime entre l'écriture et la vie, et on viendra aussi là-dessus. Mais néanmoins, tu écris beaucoup, hein, tu écris relativement beaucoup. Tu es née en 70, je suis désolée de le dire, mais tu es relativement jeune et tu as écrit beaucoup de livres. Et tu n'as pas seulement écrit, mais tu as aussi traduit beaucoup d'écrivains, dont Suzanne Jacob, dont Gail Scott, Édouard Glissant, Melissa Buzzeo, etc. Et on viendra tout à l'heure sur la place de la traduction dans ton œuvre, parce que je pense qu'il y a tout un travail d'accompagnement de ton écrit par le travail des autres. Ensuite, bon, je tiens à dire quand même que tu as eu le prix Alain Grandbois en 2008 pour S'arrête, je. Et je vais aussi retenir de ce que tu as écrit que malgré le nombre de livres que tu as fait, en fait tu ne l'as pas dit comme ça parce que tu ne dirais pas comme ça, mais c'est de plus en plus difficile d'écrire, comme si même s'ils étaient tous là et que c'était d'une certaine façon écrire ce qui était déjà manifesté, l'écriture n'était pas simple. Alors on va travailler aussi sur ce paradoxe ensemble, si ça te va.
Ça va.
Oui, ça va. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça avant que je commence ma première question?
Non, j'ajouterais seulement que j'ai aussi traduit ça va pas, hein, mais que j'ai aussi traduit Catherine. Donc ça fait partie de notre amitié, de notre dialogue aussi. C'est par la traduction qu'on, je crois, il me semble,
oui,
qu'on s'est connus.
Oui.
Donc voilà, je t'ajoute à la liste.
Oui, oui.
Je suis désolée.
Ne le sois pas, ça va. Alors, on va commencer par un clin d'œil autobiographique. Il me semble, si ma mémoire est bonne, que tu es née, que tu partages avec Walter Benjamin une date de naissance. Parce que je suis passionnée par les dates de naissance. Et je vais commencer comme ça par ce clin d'œil-là. Parce que je voudrais, ma première question portera sur les autres avec lesquels tu écris. Tu écris accompagné par un certain nombre de textes, d'auteurs. Et j'avais intitulé, on m'a demandé quel pouvait être le titre de cette présentation et j'ai dit passage parce que je trouvais que ça collait bien avec Benjamin aussi, avec tout ton travail, qui est un travail de passage. Et tu travailles donc énormément avec... dans l'ordre et dans le désordre, Derrida, Jabès, Célan, Gide, Jonathan Nahel. Il y avait beaucoup de... Dans Somewhere Running, il y avait Duras et Beckett, sur lesquels aussi tu as travaillé. Lévinas, de Beauvoir, bon, etc. Donc, j'aimerais dans un premier temps, peut-être, que tu me parles de l'écriture, non pas comme rapport au réel, mais comme rapport à d'autres textes, comme rapport à la littérature.
Il y a Jacques Derrida aussi qui est né le 15 juillet. Non, dans son discours à Francfort, quand il a reçu le prix Adorno, il évoque ça. Il me semble qu'il y a quand même une... Je ne sais pas, c'est pas tellement fatidique, mais on peut en tirer ce qu'on veut. Et c'est vrai que j'y accorde certaine importance, non pour valoriser quoi que ce soit, mais par rapport à peut-être une éthique que je reçois... de ces écrivains et d'autres écrivains aussi, des écrivains, des penseurs, des... Mais j'ai de la difficulté parce que longtemps, je pensais que je travaillais dans le vide. Et c'est au moment où j'ai vraiment où j'ai écrit l'essai sur Claude Cahun que je me suis rendu compte qu'en fait, je suis en dialogue, mais c'est un dialogue un peu charcuté, disons, avec ces écrivains-là. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vis. Et surtout, ça, la dernière manifestation de ça, c'est justement le rapport à Claude Quin, où je m'adresse à elle directement. Et c'est vraiment, ce dialogue provoque toutes sortes de syncopes, de disparitions. C'est vraiment dans la disparition que ces dialogues ont lieu. Donc je suis toujours un peu, disons, en décalage par rapport à ça, je crois. Je sais pas.
Ben, je dirais... Je ne sais pas si je parlerais, comme on peut parler des fois, d'intertextualité, parce que je ne pense pas que tu fasses beaucoup dans l'intertextualité, mais le mot qui me venait, c'était, je te dis, c'était accompagnement. C'est une présence parfois aussi que je trouvais spectrale de certains écrivains, c'est-à-dire ils sont là, ils disparaissent dans tes écrits, ils réapparaissent par moments, mais ils ne sont pas tout le temps là. Et, bon, tu disais charcuter, mais moi je le voyais plutôt comme des apparitions et des disparitions. Et des fois même aussi, j'ai l'impression que ton travail te permet de défaire les limites entre ton texte et le texte de ceux à qui tu, mais c'est, le mot est mal, l'expression est mal, mauvaise, mais à qui tu rends hommage d'une certaine façon, mais c'est pas un hommage, non, mais oui, à qui tu, dont tu témoignes.
Ou qui m'interpelle.
Ouais.
Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. Je sais pas si je... Enfin, la question du témoignage est une question assez difficile parce que, enfin, le vigile est exigeant et je crois qu'on n'est jamais tellement à la hauteur de ça. Donc c'est vrai que c'est des textes, des voix de qui m'interpellent, mais quand, je sais pas si charcuter c'est le bon mot, c'est vrai que c'est un mot assez violent, mais pour moi, quand tu dis apparition, ça me fait penser plutôt à, je réfléchis, enfin le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot de mémoire ou d'amnésie. Mm-hmm. C'est vraiment, c'est des... parce qu'il faut que je dise que je résiste à cet établissement ou cette inscription de l'écriture, ou de la mienne du moins, dans une lignée bien précise. Parce que justement, les lignées ne m'intéressent pas du tout. Je travaille dans l'interruption de la lignée, de la filiation. Donc s'il y a dialogue, ce n'est pas forcément pour établir une historique ou se justifier forcément. Mm-hmm. Et je crois que ça, c'est vraiment un travail d'universitaire qui malmène très souvent la littérature, parce qu'on veut toujours, c'est instrumentaliser le travail d'une personne, enfin, me semble-t-il, et du moins en ce qui me concerne, que d'essayer de l'inscrire nettement dans une lignée bien précise. Et on voit ça très souvent dans les travaux de recherche, etc., qu'on s'accapare d'une œuvre pour bien la mettre dans une... dans un cadre ou un carcan qui en fait qui répond à un besoin du chercheur et qui a plus rien à voir avec ni la lecture, ni la littérature, ni l'œuvre en particulier.
Parce que cet après-midi, Nathalie, on préparait un peu pour... On savait pas de quoi on allait parler, mais elle a piqué une crise contre un texte d'une universitaire qu'elle était en train de lire. Donc, et elle me demandait si c'était toujours comme ça, et je lui dis non, pas du tout. Donc, mais...
mais ça, on ne dira pas.
Je voulais juste aussi te dire... mais alors, peut-être quelque chose un peu... Juste pour que tu nous expliques, jeune Nathanaël, qui mm-hmm. est aussi dans un certain rapport à Gide.
Mm-hmm, hein. Tout à fait.
Alors, comment ça se passe? Comment se passe le processus d'écriture ou de reprise de non-inscription dans la lignée? Comment tu as écrit ce texte? Comment t'es venue l'idée? Et puis, après ça, comment as-tu procédé?
Là, j'aurais du mal, mais on peut faire semblant de reconstituer l'histoire, là.
S'il te plaît, fais semblant. Ouais.
Bon, mais d'abord, ce livre-là, il est d'abord paru en français, ensuite en anglais. Donc. Mais le livre s'est écrit un petit peu en anglais et un petit peu en français. Donc, j'ai ramené le texte en français, il a été publié en français, puis j'ai décidé de le traduire en anglais. Et là, il s'était agi... Et ça, c'est un des seuls livres qui est vraiment constitué de fragments, dans le sens où je n'avais pas envisagé de livre. Ce projet-là n'était pas un projet de livre à proprement parler, comme presque je dirais, tous mes autres livres. Mais je trouvais qu'en lisant les nourritures terrestres de Gide, qu'il avait un peu fait un sale coup à Nathanaël, qui donc est enfermé dans les pages de son livre, mais qui n'existe, qui ne s'arrive jamais. Il n'aboutit jamais à l'existence. Alors je voulais poser cette question-là de l'éthique de l'écriture, de la responsabilité de l'écrivain face à ce qu'il ou elle écrit, et de sa responsabilité vis-à-vis de ses personnages. Et c'était un petit peu dans Underground, moi-même j'avais abandonné Malicole et Ernestine dans un sous-sol barricadé, ou dans un, c'est pas un sous-sol, dans un métro, donc d'où elles ne pouvaient pas sortir, et je les ai laissées là. Et donc, c'est par rapport à cette question-là que je voulais donner la possibilité, c'est vraiment une question de possibilité à travers une, je sais pas, une réflexion sur le désir, de ce que pourrait être Nathanaël, de la possibilité de son existence. Donc, lui donner cette possibilité, mais sans la fixer pour lui. Et donc, évidemment, je tombe dans le même piège que Gide, ça c'est inévitable, mais c'est comme ça un petit peu que ce livre... Et donc, il intervient la question de l'hermaphrodisme et la question du genre, que je travaille un petit peu, surtout au début du texte, et d'ailleurs qui disparaît quasiment quand il se reformule en anglais, parce que la problématique est très différente de part et d'autre.
Dans les écrivains qui t'accompagnent, il y a aussi pas mal, je vais dire comme ça, tu vas me reprendre, d'écrivains juifs, d'écrivains de la judéité. Est-ce que tu pourrais essayer de me dire quelle est la place de ces écrivains juifs ou de cette judéité dans ton écriture à toi?
Ben ça, c'est une question difficile quand même, parce que en fait, on avait discuté de ça un petit peu avant aujourd'hui, et je me suis dit, c'est vrai, mais c'est pas comme ça que je les envisage. Quand je prends Derrida et que je le dis, quand je lis Benjamin ou Claude Kahn d'ailleurs, je me dis pas, je suis en train de lire un écrivain ou une écrivaine juive. C'est pas comme ça que j'aborde ces lectures, et j'ai peur. En fait, je me méfie énormément de ce genre de... d'enfermement, parce que c'est un enfermement. D'une part, d'identifier un auteur à un aspect de son identité, et moi-même je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle, parce que j'étais vachement prise dans ça dans les années 90, moi-même. Mais aussi de revendiquer ça, parce qu'on peut... Au bout d'un moment, ça veut rien dire. Être juif, pas être juif, c'est les questions qu'on pose, et c'est ces questions-là qui m'interpellent. Mais c'est vrai que, n'empêche que c'est une histoire qui m'intéresse, qui m'interpelle, qui me trouble, évidemment. Je crois que j'en ai hérité, de toute façon, mais il n'y a pas que moi qui ai hérité de cette histoire-là. Je crois que c'est une histoire qui fait partie de toutes les histoires, toutes les violences qui ouvrent toutes sortes de questions très douloureuses sur lesquelles on peut se pencher. Alors, je ne sais pas tellement, sauf te dire que oui, c'est vrai, mais que je ne saurais pas l'expliquer mieux que ça, quoi. Et que je ne voudrais même pas l'expliquer. Et j'ai l'impression que toi, par contre, tu répondrais peut-être mieux que moi à cette question-là, parce que toi aussi, c'est quand même une préoccupation dans ton travail.
Non, mais je ne crois pas que je pourrais répondre mieux, ou que je ne sais même pas si je le nommerais comme ça, mais de toute façon, ce n'est pas moi, là. Alors, mais peut-être Claude K1, hein, Claude K1, qui est presque toi. ce livre que tu as fait, qui a été publié dans la collection Spirale, j'aimerais un peu que tu me parles de Claude K1, de ton rapport à Claude K1, et puis de cette interpellation, tu disais, de son œuvre et de sa voix même.
Et de son même visage.
Oui, de son visage, corps.
Avant tout, oui, c'est ça vraiment qui... Mais ce livre, enfin, je le dis dans le livre, et je le dis, ça aussi, c'est un livre que j'ai traduit en anglais, donc il a déjà eu plusieurs existences, parce qu'au début, c'était une communication à l'UQAM, ensuite que je n'avais pas envie de donner, mais qu'on m'avait encouragé de faire. Et puis par la suite, en fait, c'est, je ne sais pas s'il est là, Patrick, mais c'était Patrick qui m'avait encouragé d'en faire un livre. Donc c'est un peu grâce à ou à cause de lui que, en partie, que le livre existe. Mais ce livre-là, tu voulais que j'explique. Claude Kahn, c'était une... Enfin, j'aime pas du tout faire les récits de vie comme ça, mais quand même, on la connaît surtout en tant que photographe depuis les années 90 environ. Ses écrits... Bah aussi, ses écrits ont été publiés, je crois, en 92, par François Le Perlier, mais c'était une surréaliste qui... aussi, qui était dans la résistance, qui... aussi remettait en question qui était aujourd'hui on appellerait peut-être transgenre, mais elle c'est pas un nom qu'elle aurait employé pour se désigner, mais c'est vrai qu'elle était vraiment dans le spectacle, la remise en question du genre, et d'ailleurs ça déstabilisait vachement Breton qui l'a fréquenté. C'est assez intéressant d'ailleurs, mais moi j'avais son livre donc écrit, et sans même avoir ouvert le livre il y avait cette image à la couverture qui, mais je dirais qui m'invectivait. C'était même pas une interpellation, c'était carrément une injure, quoi. Et ce qui m'injuriait, il y avait plusieurs composantes à ça, mais en partie, c'est qu'on on se ressemble un petit peu. Et donc, c'était ça que j'ai voulu envisager en écrivant ce livre. C'était vraiment la question du visage et de la reconnaissance. Qui provoque ces espèces de syncopes, de disparitions, et avec ça la question de la place de l'histoire. Quand une photo nous arrive de 1936 en 2006, quelle est la responsabilité nôtre face à cette photo? Qu'est-ce qu'elle est en train d'indiquer? Et donc cette espèce d'enchevêtrement du présent et du passé, la façon dont le passé est contaminé par le présent, où il y a des espèces d'échardes, comme dirait d'ailleurs Benjamin, là c'est vrai qu'il y est pour quelque chose. Là ça a provoqué non seulement une remise en question de ma propre personne, en face d'elle, est-ce que je pouvais exister en face d'elle, mais ça a remué un petit peu un passé dans ma famille que j'ai évoqué, mais très très brièvement vers la fin du livre. Et donc c'était un petit peu ça le projet de travailler, de remettre en question l'absence par rapport au lieu. Et si le lieu est un être qui existe peut-être forcément au passé, ben comment arrive-t-on à dire je, donc?
Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de L'absence au lieu?
Je lirai une page. Et l'intitulé ici, c'est Broyer pour voir. Me voilà ce visage, cette face venue à moi, venue étaler sur ma table de travail tout ce contre quoi je croyais m'être gardée. Que faire si ce n'est ramasser les morceaux, les restes, les déchets, les bribes et fragments, les particules effritées, la décomposition de la chose sur laquelle je m'appuyais, du lieu où je me tenais. Ramasser pour jeter, tenir pour ternir, lire pour déliter. Me livrer, que dis-je, être entraîné au dépeçage qui m'attend, me convoque et me guette, la partie exposée, sa combinaison hasardeuse de lieux et de langages qui par hasard me renvoie impunément à moi, au lieu qui me brésille, au regard que je désire, à la disparition, la mort, la fin de l'interminable refrain du « là » enclos lézardé où je m'égoutte, m'accumule, m'amoncelle, me disperse, où je suis incessamment rapatrié, apatride, ébranlé, déserteur, déserte.
Merci. Tout à l'heure... J'ai commencé en disant justement que tu
la question de la date de naissance de Benjamin. Tu m'as ajouté la date de naissance de Derrida. Là, c'est la question aussi du visage, c'est-à-dire des espèces de moments autobiographiques ou des espèces de reconnaissances biographiques qui sont génératrices pour toi de l'écriture, même si c'est des choses qui sont peut-être sans vraiment sens, mais en même temps, toi, tu arrives à en faire un sens, tu arrives à jouer avec c'est moi, c'est pas moi. Il y a tout un travail, justement, sur le regard. Et ça m'amène à la deuxième partie sur laquelle je suis désolée, je fais première partie, deuxième partie, mais sur laquelle je travaille avec toi, c'est la question de la traduction. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu traduis beaucoup, en fait, et tu te traduis d'ailleurs aussi, ça c'est assez intéressant parce que tu te permets aussi beaucoup de liberté dans ta propre traduction. Je pense que c'est ton rapport à la lecture aussi, non, dans la traduction. Peux-tu m'expliquer un petit peu comment tu en viens à traduire certains textes? C'est des textes qui déjà t'accompagnent. Comment certains de tes textes, tu acceptes de les traduire toi-même alors que d'autres, tu ne traduis pas. Mm-hmm. Puis aussi, peut-être qu'on va arriver aussi, mais si tu oublies, je vais pas l'oublier, la question de la double langue chez toi, c'est-à-dire mm-hmm. du français et de l'anglais, parce que tu as des textes qui sont en anglais, mais en anglais-français, et puis tu as des textes en français qui sont en français-anglais. Mm-hmm. Donc,
on s'en fait beaucoup. Ben, en fait, la question de la traduction des autres est beaucoup plus simple parce que finalement, à une exception près que je ne nommerai pas, j'ai toujours traduit ce que j'avais envie de traduire. Et la fois où j'ai dérogé à cette règle, je l'ai vachement regretté. Et je ne recommencerai pas.
Est-ce que c'était mon texte?
Je ne voulais pas te le dire. Aïe, non. Alors, bon, c'est ça. C'est des textes que je rencontre. Et d'ailleurs, très souvent, je lis en traduisant. C'est presque obsessionnel. Et j'essaie d'arrêter ça. Mais c'est quand je me mets à lire un texte et tout de suite qui m'interpelle. Et tout de suite, j'ai envie de le traduire.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Oui.
Tout de suite, juste pour te contredire. Mais tu écris ou tu aimes cette phrase « Je veux l'intraduisible » aussi.
Oui.
Hein, tu traduis tout le temps, mais en même temps, tu cherches que tu ne pourrais pas traduire.
Mais oui, ben, je pense que la contradiction n'annule pas.
Mais absolument.
Mais c'est vrai, mais de toute façon, il faudrait, pour moi, c'est une évidence que on vit de toute façon dans l'intraduisible. La langue, même quand on n'est pas en train de la traduire, elle est intraduisible. Là, le fait d'essayer de passer du corps à la parole provoque des espèces de... Enfin, un décalage qui aboutit à l'intraduisible, il me semble. Et bon, c'est évident, quand on passe d'un texte dans une langue à une autre langue, là, ça se manifeste de façon flagrante. Mais je crois que ça se manifeste à toutes sortes de différents niveaux, aussi, dès qu'on se rapproche de la langue, et même quand on essaie de l'éviter. Alors, donc voilà, je traduis Catherine parce que j'adore ce qu'elle fait, j'ai traduit ces autres personnes qu'elle a nommées parce que dans le texte, il y avait quelque chose qui m'emportait, quoi, que j'avais envie de poursuivre. Mais c'est toujours très... Il y a une humiliation dans le travail de traduction aussi, parce qu'on ne peut qu'échouer à ce travail. Et on sait d'avance qu'on va massacrer le texte à quelque part. Et donc, il y a cette responsabilité à porter également. Et donc, je porte cette responsabilité très lourdement quand je travaille les textes des autres, et je l'assume autrement quand il s'agit de mes propres textes, parce que là, ça ne revient qu'à moi. Mais c'est vrai que pour les premières 10 ans de publication, à peu près, j'ai refusé de me traduire. Et j'aurais dit en 2000-2001, j'aurais dit, mais non, les textes, ils sont là, soit on est en anglais, soit en français, mais il n'y a pas... C'est impossible, le dédoublement est impossible, et ça revenait à mon rapport aux langues. Et à cette époque-là, l'anglais et le français étaient catégoriquement incompatibles à l'intérieur de moi. Et puis quand il y a eu ce Jonathan Haël dans l'indécision à tous les niveaux, au niveau du genre, au niveau de la langue, au niveau de la forme, là, je m'y suis essayée, mais j'étais très, j'ai beaucoup hésité. Puis toujours, j'hésite dès que j'ai envie de traduire un texte, et après, j'en ai honte. Je peux même pas, presque pas le lire. Et parfois, ça donne. Enfin, c'est pas parce que j'en ai honte que je vais arrêter de le faire, parce que vivre, de toute façon, la vie est une humiliation. Mais par exemple, l'absence au lieu, ben je le dis, on peut en rigoler, c'est vrai, c'est un peu con.
Je note.
Mais quand j'ai traduit, alors là, c'est devenu intéressant pour moi, mais quand j'ai traduit l'absence au lieu, absence whereas, j'ai réécrit le texte parce que 2 années s'étaient écoulées et ma pensée avait évolué. C'était un peu différent parce qu'il s'agissait d'un essai. Et là encore, j'avais réussi en français à éviter le pronom en référence à Claude Quin, mais en anglais, je ne le pouvais pas. Donc là, il a fallu que je trouve une stratégie. J'avais des amis qui voulaient que j'emprunte les pronoms trans, par exemple, « zi », XE, parce que je n'ai pas voulu faire, parce que je trouvais que c'était anachronique et que je ne voulais pas lui imposer. Et d'ailleurs, je trouve que Claude Quin est instrumentalisé lamentablement, je le dirais, je m'en fous, par les universitaires qui l'emploient à leur propre fin. Donc au lieu, et je veux bien qu'il y ait un dialogue entre le passé et le présent, c'est inévitable, mais elle est souvent genre poster child pour soit le mouvement lesbien féministe, soit le mouvement trans, et on se l'accapare. Et donc là, on oublie, par exemple, quand elle avait le crâne rasé, ça c'était tout un travail autour de l'intellectualisme juif. Quand elle se photographiait avec cette lumière qui lui tombait sur le front, comme ça, assise, là, elle était en train d'usurper la place des intellectuels juifs dans la photographie. Mais donc, oui, on peut interpréter le crâne rasé comme étant le symbole de la sexualité. Mais il faut dire cette autre chose aussi, que dans le contexte, et dans le contexte de l'avant-deuxième guerre mondiale, l'avant-Shoah, que ça représentait quelque chose. Elle baignait dans Nosferatu, dans l'antisémitisme. Mais c'est ça. Donc, elle dialoguait avec tout ça. Je trouve que c'est dangereux d'occulter ça. Et puis là, ça réduit la portée de son travail de façon assez désobligeante. Alors, bon, moi, il y a dans ce livre des petits désaccords, je dirais, avec la façon dont elle est instrumentalisée, ou pire encore, la façon dont on fait une lecture un peu psychanalytique, très cheap, à mon avis, de sa vie. Bon. Et cela étant dit, je voulais en arriver à cette question de traduction, que de traduire ce texte où je rencontrais, où j'étais anéantie par Claude Quin. J'ai vécu ça un peu comme une auto-traduction, mais c'était pas seulement une auto-traduction parce que je traduisais mon propre texte, mais j'avais l'impression de l'auto-traduire aussi. Alors il y avait une espèce d'enchevêtrement qui a eu lieu où on échangeait de place de temps en temps. J'ai un peu réfléchi à ça dans d'autres textes, mais où est aussi l'auto, self-translation, est entre le self, est entre parenthèses, parce que j'avais quand même, et c'est le même genre de question que celle que je me posais à travers Nathanaël, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec cet autre personnage ou cette personne, parce que là il s'agissait d'un individu, et d'ailleurs je ne parle jamais, presque jamais d'elle dans le livre, elle-même est absente du livre de l'absence, forcément, et donc c'est vraiment la photo qui m'intéresse, et j'aurais peur de trop. C'est même pas une question de peur, mais c'est vraiment une question d'éthique. J'ai pas envie de parler à la place de quiconque, et j'ai pas envie qu'on parle à ma place non plus. Alors la traduction, et donc la traduction ravive cette problématique, puisque justement, je prête ma voix au texte des autres. Mais normalement, c'est consensuel. Alors au moins, il y a la possibilité de dialoguer autour de ça, et puis d'assumer sa part de responsabilité aussi.
Alors comment tu choisis qu'un texte soit comment, je ne sais pas si tu choisis d'ailleurs, mais comment un texte te vient et te vient dans une... Parce que tu écris en français et en anglais. Comment ça se décide, la langue du texte? Et je voudrais... C'est parce que je voudrais aussi t'amener à réfléchir sur la question du lieu, parce que c'est l'absence au lieu. Mais je me demandais aussi s'il y avait un rapport, parce que tu as bougé aussi dans des lieux qui étaient anglophones, francophones, parce que c'est l'anglais et le français qui sont tes deux langues, d'une certaine façon, maternelles, je vais dire comme ça. Et je me demandais, peut-être tout simplement partir de quelque chose de très factuel. Comment l'écriture vient dans telle langue ou dans telle autre?
C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Parfois, tout bêtement, c'est quelqu'un qui me demande un texte ou qui m'incite à réfléchir dans une langue ou une autre. Mais mes langues, parfois, elles s'annulent. Et il y a des périodes où je suis mieux en anglais, d'autres périodes où je suis mieux en français. Et souvent, je travaille un texte dans chaque langue. En même temps, comme ça, j'ai la possibilité au moins d'exister quelque part. Mais sinon, je ne sais vraiment pas répondre à cette question. Je suis désolée.
Non, mais peut-être tu peux répondre à l'autre, c'est-à-dire la question du lieu pour toi. Tu sais, parce que tu écris à un moment donné, bon, je ne sais pas si c'est toi qui l'as écrit, mais peut-être oui. Elle vit, je crois, à Chicago. Hein? Il y a quelque chose d'abord, elle et je, mais aussi, d'ailleurs je pense que tu l'as écrit en anglais cette phrase,
she did, she thinks, okay, et, ouais. Et en français c'est elle vit, elle suit, je crois,
okay.
Ou je me souviens plus.
Mais quelle est la part du lieu, parce que l'absence au lieu, quelle est la part du lieu ou de... ma question c'est un peu simple, c'est est-ce que c'est pas le livre qui devient d'une certaine façon le lieu habitable pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté domicile serait un mauvais mot, mais
de demeure,
oui, parce que le mot est important pour toi, demeure.
Le livre, je ne sais pas si c'est le livre ou si c'est la langue, mais en fait la langue déjà, elle est d'office inhabitable. Ça, surtout dans la parole. Et donc le livre serait un lieu habitable, mais au conditionnel. Il le serait, éventuellement. Mm-hmm. Et je ne dirais jamais, comme George Steiner le dit, « text is homeland ». Ça, je ne dirais jamais. D'abord, la nation en tant que telle ne m'intéresse pas du tout. La patrie, toutes ces questions-là. Mais la question des frontières à passer, ça, par contre, ça m'intéresse. Et c'est d'une grande violence. Et c'est fort possible que cette frontière-là, elle existe pour moi entre l'anglais et le français. Donc, ce passage-là a lieu. Et chaque fois, c'est une forme de violence. Il y a quelque chose qui échappe. Et il y a aussi une brisure qui a lieu à l'endroit du livre qui se rapprocherait éventuellement du corps. Et donc, mais c'est un peu infernal comme logique, parce que si on ne peut qu'exister à travers le livre, c'est qu'on n'existe pas tout à fait. Mais c'est ça. C'est ça. Et donc, comme le livre vient après... On n'existe qu'au passé. Et d'ailleurs, en venant ici aujourd'hui, je me disais qu'il faudrait en fait qu'on ne parle qu'au passé, à son propre sujet. Qu'en fait, on est toujours dans le passé de son existence. Dès qu'on s'ouvre à la langue et qu'on dit « je suis », en fait, on est en train de dire « j'étais ». On prépare la place, le lieu de sa disparition à travers la langue. Et le livre témoigne sans doute très mal de ça.
De cette disparition-là.
Et de soi. Oui, oui, oui.
Mais je vais revenir à ce que j'ai dit au début. Tu disais, je voudrais peut-être que tu... Sur la question du livre, ils étaient déjà tous là. Et même ceux qui sont à venir, d'une certaine façon,
ça m'étonne que j'ai dit ça. Et j'ai envie de savoir... Non, j'ai envie de me contredire, en fait. Parce que c'est pas du tout comme... C'est pas comme ça que je dis. Parce que c'est tellement fataliste comme...
Je pense pas que tu l'aies dit de façon fataliste, je pense.
Non. Non. Dis-moi ce que j'ai dit. Alors.
Non, je pense que dans le contexte, c'est que tu voulais dire que, je crois, hein, excuse-moi de te...
Non, non, vas-y.
Non, mais je crois que tu... c'était une question, parce que c'était dans une entrevue, et c'était une question, quelqu'un te demandait d'où venaient les livres, d'une certaine façon, et tu avais comme envie de dire, c'est pas des accidents de parcours, les livres, c'est pas, tu vois, d'accord, c'est pas quelque chose qui vient parce que j'ai fait ça hier, mm-hmm, ou que quelque... mm-hmm. Si, d'une certaine façon, l'écriture était là, et les livres ont manifesté quelque chose qui était déjà là avant, et... Tu vois, il n'y a pas d'étonnement. Mais par contre, ce que tu disais aussi, c'était une certaine honte de mm-hmm. l'écriture. Mais, mm-hmm. mais ah tu non, peux mais te contredire
bien...
quand même.
Non, non, mais tu as bien répondu à ma place, en fait. Et dans ce sens-là, il s'agit d'une rencontre. Une rencontre envisagée, mais inattendue aussi. C'est ça aussi. Moi, mes livres, en principe, je ne les prépare pas. Même ce truc-là que j'ai fait... En fait, c'était, je ne veux pas dire progressif parce que j'aime pas trop ce mot, mais disons qu'il s'est fait au fur et à mesure. Je ne travaille pas à partir d'un plan, d'un schéma. Enfin, je me méfie de toute forme de systématisme. Donc, vraiment, et ce qui m'intéresse, c'est d'être peut-être un peu étonnée par le processus, voire ahurie parfois, mais d'être un peu prise à dépourvu. Ça, c'est, sinon, à quoi bon ? Faire du travail. Si le travail est déjà fait, à quoi ça sert ?
Non, mais tu disais pas ça dans ce sens-là. C'était vraiment l'idée que l'écriture avait pas été...
Ah non, ça je comprends, mais j'ajoute à ce que tu disais. Enfin, c'est un peu comme ça que je pense la chose. Et c'est pas une découverte non plus. Mais tous ces mots-là, ils sont tellement imprégnés de... C'est devenu des clichés, donc c'est difficile de trouver une façon d'en parler... intelligemment, quoi.
Et la honte d'écrire, hein, juste parce que c'est quand même assez important. Cette, tout à l'heure, bon, tu disais la vie est une humiliation, mais il y a quand même quelque chose dans l'écriture qui n'est pas, même si c'est une demeure, c'est pas le lieu d'un apaisement, c'est pas un lieu où on se reconnaît, puis on dit je suis bien là-dedans, ça me ressemble. Il y a quelque chose de. Mais d'ailleurs, dans, je sais pas comment dire, les personnages, mais le mot est mauvais, mais les êtres qui traversent tes livres sont aussi dans une certaine honte face à l'existence, face à ce qu'ils sont. Est-ce que ça te dit quelque chose, ce que je suis en train de raconter ?
Oui, oui, bien sûr. Tu peux me reposer la question, là, je perds ton fil.
Ma question, c'est...
La honte en écriture.
Oui, la honte dans l'écriture. Je vais dire comme ça, être capable de prendre une place qui n'est pas une place de maîtrise dans l'écriture, c'est de prendre aussi une place comme Claude Cahun, bon, le mot peut-être sacrifice, mais pas seulement sacrifice et c'est pas victime, le mot serait même, c'est pas ça du tout, mais d'être capable d'être du côté des humiliés, où l'écriture n'est pas une victoire, l'écriture n'est pas du côté de la, je reprends possession.
Ah ouais, non, pas du tout. Ben d'ailleurs, mais ça ouvre la question de la nomination, d'ailleurs, parce que dès qu'on est dans la langue, on est dans la question de la nomination qui est d'une violence enfin, extraordinaire. Ça, c'est depuis toujours qu'on s'approprie la langue. Et dès qu'on est nommé, dès qu'on se nomme, on est pris dans le jeu de la nomination. Et c'est vrai que ça revient dans le travail que je fais autour de la nomination, mais c'est aussi le fait de... Je crois que c'est même pas la question de la maîtrise ou de la honte dans l'écriture, mais la honte dans la langue même. Ou un malaise. Mais il faut dire aussi que ce qui accompagne ça, c'est un grand plaisir que je prends quand j'écris aussi. Et ça, c'est vrai que souvent, on évoque... ce qui est souvent appelé, et là je ne dis pas que c'est toi que tu fais ça du tout, mais souvent on pose la question de la négativité dans mon écriture, où on me dit que c'est trop déprimant, etc. Cette question-là, je la trouve tellement inintéressante parce qu'elle n'a rien à voir avec l'écriture, elle n'a rien à voir avec ce que je fais. Ce n'est pas une question de mettre en valeur plus un sentiment plus ou une sensation plus qu'un autre. Mais il me semble qu'il faut, voilà, on travaille avec ce qu'il y a en face de nous, et l'être humain est, et ben, moi je dirais que l'être humain, c'est un animal raté, en fait. On est incapable de... Enfin, je sais même pas si je devrais poursuivre sur cette lancée. Mais ça me travaille, puisque le travail de la langue, ça rejoint forcément le travail... la question de l'être et la façon dont on habite ou dont on demeure. Faut que tu me coupes la parole là.
Non, non, pas du tout. Mais, je pensais à ton rapport à la théorie. C'est-à-dire que souvent, parce que tes livres, en fait, je pourrais pas dire que tu as fait des livres qui sont des poèmes, je pourrais pas faire des livres de poésie, je pourrais pas dire que tu as fait des livres qui sont des essais. Bon, il y a pour les besoins de l'édition, il y a un classement ou une espèce de... Mais en même temps, tu travailles beaucoup sur défaire le genre littéraire, ou tu travailles beaucoup là-dessus. Et justement, je pense que ce qui est particulièrement intéressant dans ton travail, il y a beaucoup d'autres choses, c'est le langage me force à dire les choses comme ça, j'ai l'impression que c'est ton rapport à la théorie, c'est-à-dire que tu arrives à faire un travail très poétique, mais tu t'inscris aussi, mais t'aimes pas le mot, mais dans... en tout cas, tu fais écho à tout un travail théorique de beaucoup de penseurs et de philosophes. Alors, là encore, il y a tout un rapport aux frontières que tu aimes passer. Bon, tu te permets plein de choses. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cet amour de la théorie, ou à quoi il te sert? Tes sources d'inspiration, c'est pas seulement des écrivains, c'est aussi des philosophes.
Ben, je lis beaucoup plus de philosophie que d'écrivains, c'est vrai, ou enfin, je ne sais même pas faire la part des choses, dire ce qui est poète, qui est... Je lis Paul Celan, et c'est autant de la philosophie pour moi que de la poésie. Et les textes de Jacques Derrida qui me retiennent, c'est des textes extrêmement sensuels. Et quand je dis ça, les gens s'étonnent, mais pour moi, il y a une énorme sensualité dans son écriture, La carte postale, par exemple, qui est repris en partie dans Feu la cendre. Cette langue-là, c'est pas seulement les idées à leur état soi-disant pur qui m'intéressent non plus, c'est la façon dont elles sont, dont elles habitent la langue. Mais tu sais, c'est vrai que je passe ces frontières, mais je crois que je suis un peu stupide aussi par rapport à ça, parce que je n'ai pas conscience de ces délimitations. Je les ai tellement rejetées, j'en ai tellement pas voulu, que j'essaie de ne pas trop m'en préoccuper. Mais c'est quand elles me sont présentées, à ce moment-là, je suis obligée. Là, je suis très mal, quand on essaie de faire rentrer... un texte, par exemple, dans une catégorie, ou qu'on prenne une personne et on essaie de la caser quelque part, ça me met à mal. Alors c'est vrai que je résiste à ça, et je résiste à ça au quotidien, autant que dans l'écriture. C'est pas d'ailleurs au niveau théorique que ces questions-là, elles sont, j'espère, hein, de façon sans doute très problématique, intégrées au mouvement du corps. Et c'est peut-être d'ailleurs le mouvement qui les précipite, qu'il y a ce désir de mouvement, de passage, pour reprendre l'intitulé de la soirée, entre les langues. Parce qu'au bout d'un moment, je suis complètement déboussolée par rapport à tout ça. Même, je veux dire, à l'intérieur de l'anglais et du français, il y a des passages grammaticaux, par exemple, qui sautent complètement. Il y a des points de repère que je n'ai pas du tout. Et ces décalages ont sans doute... influencer cette incapacité de vivre dans l'unicité, quoi. Ça ne me dit absolument rien. Je comprends pas très bien ce que c'est. Alors, dans un sens, c'est inévitable, mais d'un autre côté, c'est vrai que je le travaille, ça. Parce que, encore une fois, je crois que c'est une question d'éthique, parce que les valeurs absolues, elles mènent au nationalisme, au fascisme, etc. Enfin, il y a un lien à faire entre tout, à mon avis, ce qui est catégorique.
Et Carnet de désaccords, justement, qui travaille sur la dissonance, le « dé », ce qui n'est pas dans l'accord, ce qui ne peut pas devenir totalitaire aussi. Mm-hmm. Tu peux nous en parler un peu de ce texte-là?
Oui.
Dans son rapport à l'essai, pas essai.
Ah oui, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, le carnet. Mais je sais que c'était un livre que j'ai écrit à la place d'un autre livre, qu'après l'injure, j'avais l'impression que j'avais suicidé le français, ou le français m'avait suicidé, ou avait suicidé mon écriture, et j'étais plus capable. En tout cas, j'avais du mal en français. Et j'avais commencé l'écriture d'un autre livre, dont je parle dans le carnet de désaccord, et qui est un livre que j'ai jamais vraiment pu terminer. Donc, je me demandais à travers ce livre si un livre pouvait nous consoler d'un livre. Mm-hmm. Bon, la réponse est évidente et non. Mais la réponse n'est pas intéressante de toute façon. C'est la question qui est éventuellement intéressante ou qui m'a retenue. Et donc, c'est à partir de ce questionnement-là que j'ai voulu essayer de... et aussi de sortir dans un sens du livre tel que je l'avais vécu jusque-là. Et en fait, pour moi, ce livre, c'est le seul livre en ce moment auquel je peux, de moi, que je peux me rapprocher des autres. J'ai envie de vomir quand ça m'intéresse pas du tout. Mais je peux pas, mais pour vivre au présent, on peut pas. Le livre, c'est ce que je disais, dès qu'il apparaît, il est déjà du passé. Enfin, c'est pour la personne qui le lira, c'est très bien, mais ça n'a plus rien à voir. Enfin, je sais pas si toi tu le vis comme ça, mais.
Et tu nous en lis un morceau de ce livre.
Je te pose la question.
Qui te donne pas mal au cœur.
Pas encore. Il s'était agi d'autre chose. Le carnet de désaccord aurait tout aussi bien pu être le carnet d'autre chose, de choses autres. Autre, bien entendu, que le livre intentionnel, que le livre voulu. Volonté de consolation dans l'urgence, peut-être, d'un geste inconsolable. Qui se sait être inconsolable? Épistémologie du soulagement, logique de l'apaisement. Justement, l'être inconsolable n'est ni en devenir, ni abattu, et surtout pas calculable. Sauf erreur, l'être inconsolable est à la fois la condition de et conditionné par autre chose. Sauf erreur, dans le contexte de cette construction, est déterminant. Il ne s'agit ni de l'erreur sauve, elle ne le sera jamais, quoique de cela non plus on ne peut avoir la certitude, ni de la possibilité de son sauvetage, mais de la brèche qui interdit ou ne permet pas l'accès à la finitude, ne serait-ce que la finitude souhaitée de celle-ci. La brèche interdit l'accès au rêve, même s'il en était le conduit. Le peut-être, c'est à la fois l'imprévu et l'imprévenu. La grossière et séduisante maladresse de l'énonciation. Le peut-être, c'est l'après-coup du débarquement des grandes guerres, toutes grandes, les guerres. C'est la pensée après-coup, irréfléchie, toujours entravée devant la possibilité dépassée par les événements. Claude, l'enfant sur le toit, doit sa potentialité à sa mort, qui appelle justement « more » ou « davantage », à cause injustement de sa qualité insondable et absolue. Il doit sa potentialité à sa mort ébréchée, à sa mort en morceaux, mastiquée dans tant de bouches familières, voire familiales, venues après le croquer, dont la mienne, qui le vole et le survole par un désir hasardé de l'enlever de là, le toit où je l'imagine en conversation muette avec les oiseaux. Comme si ce geste pouvait me libérer de la contrainte d'être aimé, soit approprié. Dans la détestation de la filiation. Enlever l'autre, mort déjà, pour ne pas refaire l'erreur de la descendance, l'erreur justement de l'attente. Claude prend la place que la mort accorde. Il y a une photo de lui déchirée, il y a les portes vaguement discernables, Il y a une pluie grise qui ramène ce qu'elle peut du passé, qui délave les trottoirs et gâche les archives surannées. Je prends le tout dans mon sac. Je dis que la circonstance est illisible, ratée, je le dis et redis. Claude s'évanouit dans mes membres. J'embrasse Claude sur le ventre.
Merci. On va peut-être passer à... ce que tu as dit sur le fait que tes textes te... En fait, tu avais du mal à les voir, qu'il y a très peu que tu supportes encore, me conduit à ce que peut-être tu vas avoir du mal à aborder, c'est-à-dire ton parcours d'écriture. Je pensais à... Tu as eu des textes qu'on dirait de jeunesse et des textes plus... avec lesquels tu s'embêtes dans un rapport plus pacifique. Et néanmoins, tu vas accepter qu'on réédite tes textes. Un de tes premiers textes, Underground, va être, si je ne me trompe, réédité à l'Hexagone. Et je voulais savoir un peu ce que c'était, d'abord, cette vie des textes qui nous reviennent comme ça. C'est toujours cette idée de la honte que je voudrais quand même travailler. Mais aussi, et puis le passage d'un texte à l'autre. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des... Comment tu conçois... Je ne veux pas que tu me sois en train de m'élaborer un truc sur ton œuvre, mais je me demande si tu vois des liens entre tes textes et puis comment tu peux supporter le regard difficile que tu as sur tes propres textes.
Comment je... Ah, même pas comment je supporte les textes, mais comment je supporte mon regard.
Oui, aussi.
Ah ouais. Underground, c'est en fait le seul livre que j'aurais voulu ressusciter. Mais le ressusciter mort. Hein. Ça, c'est la condition de la republication du livre, c'est qu'il soit reconnu, déjà dépassé.
Et comment tu fais ça, pratiquement?
Ben ça, je le sais pas. Mais c'est dans ma pensée que c'est comme ça que ça fonctionne. Les autres en France qui voudront. Mais... Non, c'est vrai que c'est un livre auquel je tiens. C'est le seul que je retiendrai de cette période que tu évoques. Ah là, mais pour parler du passage d'un livre à l'autre, ça, là j'ai de la difficulté parce que tu me demandes en fait une vue d'ensemble, un petit peu, hein, sur ce que j'ai fait. Et en fait, pour passer à la... Je suis vraiment... C'est vrai que je suis un peu amnésique dans la façon dont je travaille, donc... Pas, j'espère, amnésique au point où je me répète, mais où vraiment il faut que je m'évide pour pouvoir aborder le travail qui est en face de moi, quoi. Et ça me pose des problèmes, justement, avec le genre de questions que tu me poses là, parce que j'ai pas la capacité très facilement d'aller pêcher une liste d'écrivains qui m'auraient retenu ou de... Ça, ce genre de truc que m'échappe, il y a des espèces de syncopes qui sont, je crois, installées dans ma pensée. Mais je peux te dire, je sais pas.
Non, mais c'est aussi comment tu portes un livre, comment tu peux vivre longtemps avec un livre ou pas aussi. Mais là, tu me réponds parce que tu me dis que j'étais amnésique aussi par rapport
mais
à ça.
Mais je ne les vis pas longtemps. Et là, de moins en moins, je suis de moins en moins capable de les supporter. Là, ils arrivent et je les range tout de suite. Quand j'ai un texte qui arrive, que j'ai publié, je ne le lis pas, je ne le regarde pas. Je n'ouvre pas la revue. Non, et c'est un rapport un peu fragile, j'avoue, à ce travail, mais... C'est comme ça que ça se présente et ça, tu l'as dit, je crois, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça l'est de plus en plus. Je sais pas.
Et sur la honte, tu veux pas...
Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la honte? J'ai déjà tellement dit sur la honte. Mais dis-moi ce que tu penses.
Non, non, c'était simplement... C'est parce que je pense à ton texte, l'injure. Je pense à plein de textes qui... Même le texte de K1, même le rapport à devoir... Je le vois comme un devoir, mais tu ne vas pas être nécessairement d'accord, mais il y a comme une urgence ou un devoir ou une injonction à écrire. Et puis en même temps, il y a dans ton travail... Tu portes les livres, mais en même temps, tu aurais c'est presque que parfois tu aurais aimé ne pas les avoir écrites, mais tu les portes quand même, tu vois. Je te dis ça à partir de tes textes, pas à partir de toi du tout. Là, c'est comme j'ai l'impression que tout ton travail sur le texte, c'est à la fois il faut le porter et à la fois il y a quelque chose qui est insupportable et même honteux. Tu vois, c'est pour ça que quand tu me dis que tout à l'heure tu as parlé de carnet de désaccords en disant c'est le seul avec lequel je peux vivre en ce moment. Bon, ben c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas généreux par rapport à tes propres textes, mais c'est correct. Mais en même temps tu les écris dans ça. C'est pour ça que je pense à K1, c'est parce que K1 aussi a tout ce travail de montrer quelque chose dont elle n'est pas toujours fière, mais elle accepte de l'exhiber parce que c'est, tu sais, il y a offrir au regard, offrir en peinture ce dont on n'est pas complètement fière, mais dont on est quand même responsable.
C'est un peu ça le travail de la traduction aussi. C'est tout à fait ça. Traduire, c'est porter, c'est passer une frontière avec ou une limite, c'est porter les décombres. Alors, je sais pas, on pourrait réfléchir ça par rapport à la mort, par exemple, la honte de sa propre mortalité, qui, je crois, est inscrite dans la langue même, et donc qui vient s'inscrire dans le travail d'écriture. Donc, ce serait peut-être. Ça rejoindrait éventuellement la question du lieu aussi.
Mais, oui, puis peut-être aussi celle de l'amitié, parce que il y a beaucoup de l'adresse. Il y a beaucoup de tes livres pour les porter, pour qu'ils existent. Ils doivent être accompagnés, ils doivent être tenus. Il y a une parole qui t'est adressée ou que tu adresses. Tu écris beaucoup dans l'amitié, c'est vrai aussi avec dans des échanges. Donc j'ai l'impression aussi que ce travail-là, qui est difficile à faire, tu le fais avec d'autres, même si parfois ils sont pas là, même si simplement. Tu vois, c'est...
Non, c'est vrai. D'ailleurs, j'écris beaucoup de lettres. Le travail dans le carnet de désaccord. Et de plus en plus, là, j'en suis au troisième carnet. Et là, dans celui-ci, je les cite. Et quand je cite un passage qui n'est pas indiqué, c'est toujours un extrait de ma lettre. Mais je ne cite jamais les lettres des autres. Il y a peut-être deux occasions où j'ai fait ça, mais j'ai demandé la permission. J'ai fait très attention. Je ne voulais pas m'approprier la voix, mais je fais beaucoup de mon travail d'écriture, je le fais dans les lettres. J'écris sans doute plus de lettres que je n'écris de livres, j'en écris beaucoup. Et je ne suis pas de celles ou ceux qui diraient que l'écriture, au fond, elle se suffit à elle seule. Il faut qu'il y ait la possibilité au moins de la rencontre, de l'échange. Avec une personne, même si elle n'est pas tout de suite là en face de moi, mais l'écriture est dans le dialogue, ou du moins l'appel. Oui, donc il y a toujours, et là je les cite dans les carnets, les gens avec qui je corresponds et dont ma part de la correspondance se retrouve. Dans le livre, ces gens-là, je les nomme à la fin du livre, en même temps que les livres que je lisais au moment où je l'écrivais. Mais ça, c'est relativement récent. C'est pas un truc que j'exposais avant.
Et le rapport aux éditeurs ou aux éditrices là-dedans, c'est sans permettre. Je peux rien que tu dises qui te compromette et qui fasse que tes éditeurs deviennent affectés.
Surtout qu'il y en a au moins deux dans la salle.
Mais je est-ce que c'est un travail aussi là qui est de plus en plus important? Est-ce que dans tes premiers textes, tu avais l'impression de les faire plus seul? Et puis maintenant, tu laisses cette... Puisque c'est de plus en plus difficile d'écrire, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as besoin de plus en plus de cette aide, mais je ne sais pas comment dire, ou de cette voix autre qui est avec toi?
Oui, d'ailleurs. C'est... Oui. je disais que c'est un travail de plus en plus fragile, et donc il y a très peu de personnes avec qui je peux travailler. C'est pas parce que je m'entends pas forcément avec les gens, mais c'est plutôt parce que le processus est tellement fragile et que dans ce travail, je sais pas pourquoi, mais c'est toujours à la limite du livre que j'ai l'impression que tout va s'effondrer. Et ça, c'est le travail le plus difficile pour moi. Alors, il faut que je puisse travailler avec des gens à qui je fais confiance avec ça. Et donc, en fait, je fais très attention par rapport à ce choix-là, à ce travail-là. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est un travail énorme. Je saurais pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que c'est...
Et puis tu laisses cette place-là aussi peut-être de plus en plus exister, non?
Mais avant, le problème ne se posait pas de la même façon. Pas du tout. C'est assez nouveau. Je m'en étonne moi-même. Je comprends pas. Plus j'écris, plus ça devient difficile. Je comprends que ça devient difficile dans l'écriture. Parce qu'au début, peut-être qu'on est un peu arrogant, on se dit qu'on est capable de faire ça, on se lance dedans, et puis après on se rend compte à quel point c'est pas possible, à quel point on est pris dans des enjeux, et puis on regarde autour de soi les milliers de livres, et cette, je veux dire, dans tout ça, il y a combien de livres qui valent la peine d'être lus? Je sais pas, et on se dit, est-ce qu'on va s'ajouter à ça? Donc il y a ça d'une part, mais c'est des questions qui viennent après, puis après on est lancé, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc comment affronter ça?
Tu nous lis un extrait d'Underground que tu vas publier aux éditions 3. C'est ton premier ou ton deuxième, peut-être deuxième livre publié? Je t'en souviens pas.
Quatre, il y a juste trois, je sais.
Troisième.
Pas.
Bon.
Troisième, deuxième livre aux éditions 3. Ouais. Oui. Bon. Le générateur se remet en marche. Quelque part au loin, le grincement des roues métalliques d'un train lâche un cri dans un tunnel étroit. Éclairée à nouveau par une lumière blême, la station de métro retrouve sa parure banale. Le signal lumineux s'éteint. Du nombril à laine, Malicode et Ernestine ne sont chacune que taches d'encre et de sang. Elles se regardent, les yeux dans les yeux, miroirs élusifs, réfractaires, d'une intensité que d'aucuns qualifieraient de folie. Le mot, celui-là, folie. La folie de l'emmurement, tissage de l'hystérie à même la peau, déchirure, nécrose des cellules, rature, et la délirante douleur du pu qui s'immisce à l'intérieur du corps, sans relâche, en quête d'une voie de sortie, un orifice, n'importe lequel, le vagin, l'anus, la bouche, quitter le corps, lui survivre, si ce n'était pour la folie gravée derrière les paupières, ne rien dire. Oui, je le vois. Tourmente de la langue qui resserre la gorge comme une corde nouée autour du cou. Ernestine se relève, couvre ses oreilles de ses mains, ferme les yeux et ouvre grand la bouche. L'incrimination du corps livré à l'inventaire du désir, de la parole fomentée au cours de longues années de cachotterie et de démence, présage un soulèvement précoce de l'écorce pensante, derrière laquelle grouille délabrée une pensée dissidente, acharnée, incongrue, élaborée en éclats, recueillie méticuleusement par des doigts fouilleurs, accoutumés aux débris, aux restes, gavages des égouts et caniveaux, système nerveux des grandes villes balafrées, par le sang issu de veines tailladées. Fragmentaire, le langage n'est qu'une suite d'ellipses dans laquelle s'insinuent pieds nus, bras découverts, un défilé d'ombres défigurées, absentes, grattant son fond tubéreux, sexué.
Merci. Je vais finir justement sur la question des frontières ou du passage entre tout ton travail de déconstruction des frontières. Alors on a des frontières sexuelles, bien sûr, ton travail sur l'entre-genre, et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ça. Mais bon, on a vu les frontières aussi textuelles, les frontières entre les langues. Et donc j'ai comme deux questions qui n'ont rien à voir, mais donc j'ai l'idée de Oui, la première, c'est j'aimerais que tu me parles de ce travail sur les frontières sexuelles dans Je Nathanaël et puis en général dans ton travail, mais aussi ta haine, ta grande haine de tout ce qui est de l'ordre de la terre natale, de la patrie. Tu écris le retour de l'exilé à son pays revient à une mort. Et donc tout ce rapport-là. Et puis j'en étais même à. Je te dis tout, et puis après tu réponds comme tu veux. J'en étais même à me dire, bon, puisque maintenant, en ce moment, je sais que tu fais aussi de la photo, si tu pensais rester dans le genre livre et que si tu allais aller vers autre chose que l'écriture, si tu allais. Bon, alors tu réponds comme tu veux. Donc la sexualité, le rapport au pays, mm-hmm. et puis le rapport au pays livre et à la photo.
Bon, la dernière question, c'est la question la plus facile en fait, parce que je prends des photos, c'est vrai, je te les envoie parfois, mais c'est pas des photos que j'ai l'intention de publier du tout. Donc non, je n'ai pas tellement l'intention de m'aventurer là-dedans. Et d'ailleurs, je suis un peu... J'envie les gens qui ont cette capacité-là de travailler d'autres formes.
Comme K1, en fait.
Comme K1, ouais. Ou comme Benny Namorowski, Ramsey, mm-hmm. Arway Kemp. Enfin, j'ai des amis qui sont assez versatiles et qui... est-ce que ça se dit? Peu importe. Et je les admire pour ça quelque part parce qu'ils ont le choix de plusieurs corps et ils ont le rapport à cette matérialité que je n'ai pas. C'est vrai que j'aime beaucoup mes plantes, j'aime toucher le sol, le terreau, tout ça. J'aimerais bien pouvoir, mais je crois que j'aurais pas la confiance pour ça. Mais donc la photo, je m'y intéresse beaucoup. Mais toujours un imposteur, même ce truc-là que j'ai écrit sur Claude Quin, je sais pas, je continue là-dedans. Ça rejoint ta question de la honte une fois de plus.
Ça ne serait pas la bonne de faire de mauvaises photos.
Non, pas de faire de mauvaises photos, mais de travailler, de réfléchir à la photo, sans savoir de quoi je parle. Mais il faudrait peut-être qu'on ne fasse que ça. Au lieu de se replier sur des trucs, des bases plus soi-disant solides, parce que là, peut-être aucune des bases sont solides, alors c'est une façon de se le rappeler. Mm-hmm. La question du genre, je ne sais même pas comment l'aborder. C'est vrai que c'est une question qui traverse tout le travail que je fais, mm-hmm. mais on discutait justement des disciplines, et je n'aimerais pas non plus... que mon écriture soit enfermée là-dedans. Ça m'intéresse pas. Là, dernièrement, j'ai appris que... Enfin, c'est pas important. Mais mais j'allais dire... J'avais appris que quelqu'un avait fait une anthologie en ligne et avait mis des textes à moi là-dedans. Et c'est une anthologie de poésie, de femme. Alors bon, c'est vrai que je résiste à ce mot femme. Je résiste aussi à ce mot de poésie. Je résiste, je refuse catégoriquement à une exception près de me retrouver dans une revue ou une anthologie de la littérature canadienne ou américaine, ou quelle que soit ça ne m'intéresse pas de travailler dans ces zones-là du tout.
C'est pas simple, hein? Non, mais parce que c'est pas facile de publier. Tu comprends la.
Non, je sais. Puis quelqu'un me le disait dernièrement. Il m'a dit, mais faut que tu trouves un truc là pour que ça passe. Mais j'écris pas pour que ça passe. Enfin, ça m'a tellement fait chier parce que du moment où on capitule à ça, si on est tout le temps en train de dire oui, mais on n'a pas le choix, eh ben là rien ne se transformera. Mmh. Faut avoir au moins. Enfin, faut vivre. Si déjà on choisit de faire ce genre de travail, c'est qu'on s'aventure dans un lieu assez restreint et déjà un peu isolé. Alors autant ne faire, autant pouvoir vivre avec soi en le faisant, même si ce vivre-là est un peu difficile. Mais ce qu'il y a d'intéressant pour moi par rapport aux langues, c'est que cette question du genre, on en a beaucoup parlé, toi et moi, elle se déplace, que ce soit en anglais ou en français. Donc en anglais, par exemple, aux États-Unis, avec des amis, on parle très souvent des pronoms, de la revendication d'un pronom trans, par exemple. Mm-hmm. Bon, je veux bien, mais dès qu'on quitte la langue anglaise, la problématique, elle se présente autrement. Alors, comment vivre ça en français? Parce que si en français, par exemple, on choisit le masculin, eh ben là, on est dans la généralité, on est dans l'occultation, l'oblitération absolue du féminin. Mm-hmm. Pas ça, j'ai pas envie d'oblitérer le féminin, mais j'ai envie de prendre un autre chemin. Et donc, on en avait parlé, toi et moi, qu'il faudrait en fait qu'en français, il faudrait trouver d'autres stratégies à d'autres niveaux de la phrase, pas uniquement se replier sur le pronom. Et puis, il faut dire aussi, et je le reconnais, que c'est aussi un privilège que de pouvoir aborder cette revendication-là. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde, dans tous les pays. Donc, même cette lutte, cette revendication, fait état d'un privilège. Mais tout ça, c'est le politique. Et c'est pas que le politique n'intervient pas dans ce que je fais, mais que j'aimerais que cette question, elle côtoie les autres questions, elle fait partie, elle rejoint la question du traduisible, des limites, de la remise en question, de l'identification à une patrie, à une identité nationale, disons. Et donc... Je ne sais pas comment, dans une langue qui est fixe, parce que l'écriture est quand même fixée, comment régler le pronom. Je ne sais pas s'il est réglable, mais je crois qu'il faut qu'il soit toujours en mouvement. Et donc, j'essaie un petit peu de travailler ça par rapport au mouvement. Je fais chier les gens parce que j'ai au moins deux prénoms, parfois même trois. Et je refuse de trancher. On me dit Nathalie, Nathanaël... Mais ça m'intéresse. J'ai pas envie de passer au pronom masculin, forcément. J'ai envie de quitter le binaire. C'est ça, ce qui est difficile avec une pensée à la limite très cartésienne dans une langue qui est formulée par le binaire. Et donc, il faudrait vivre et écrire de façon peut-être elliptique. Et de là, vivre l'enjeu de la disparition. Parce que c'est pas forcément... Peut-être le geste n'est pas tant de dire, mais de se retirer du dire. Et donc, de risquer d'être mal interprété. Mal interprété aussi. Au lieu d'essayer de formuler ça soi-même, de s'assurer une place, il faudrait peut-être, enfin pour moi, accepter que la place, elle est peut-être prise ou elle n'existe peut-être carrément pas.
Mm-hmm. Tu nous lis un peu, Jonathanaël?
Oui.
Je voulais juste, peut-être avant que tu commences à lire, je voulais juste te dire... On parlait aujourd'hui que quelqu'un te reprochait le fait que c'était parfois difficile d'être à tes côtés à cause de ton éthique et de ton intelligence et de ton intransigeance. Tu me l'as pas dit comme ça, hein, c'est pas toi, c'est pas de toi, c'est moi qui te le dis. Mais je dois dire que il y a quelque chose de difficile. Il y a dans ta intransigeance face au monde, il y a quelque chose de parfois violent, hein, et qui se voit dans ton écriture, qui est à la fois dans un rapport éthique de douceur et d'accueil, mm-hmm. et en même temps dans ton écriture il y a quelque chose de c'est pas crispé comme ça ton écriture, mais je n'accepterai pas que les choses me soient imposées telles qu'elles sont, il faut y penser autrement, et c'est vrai que ça nous demande parfois d'être à une hauteur qui n'est pas évidente, tes textes, pas toi comme personne, tes textes demandent une hauteur un peu violente, c'est ça.
Mais moi, je dirais que les textes répondent à une violence qui existe déjà, et c'est vrai que parfois, je crois, mais la langue elle-même, elle est forcément dans la force et dans la violence, me semble-t-il. Je réfléchis à ça un petit peu dans l'absence au lieu, la question du nom, par exemple, qui nous est donné. Oui, on nous donne un nom, mais le nom occupe une place avant nous, avant même qu'on puisse arriver au nom qui nous est donné, et donc qui nous est imposé. Et donc il y a déjà, avant même qu'on arrive, cette violence-là, elle nous précède, et donc, et c'est de ça qu'on hérite, il me semble. Enfin, je ne devrais pas parler comme ça pour tout le monde, mais moi, c'est la façon dont je comprends la langue. Donc, cette violence-là de l'éthique, mais elle est là. Je réponds à ça, il me semble.
Oui, tout à fait. Mais tu réponds par des moyens qui peuvent sembler parfois non pas contraires à l'éthique, mais qui appellent l'éthique, mais qui sont parfois plus violents que l'éthique elle-même, tu vois. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, parfois même un petit peu terroriste dans ton écriture. Mais, tu vois, il y a comme ça la volonté de faire sauter quelque chose du langage, de faire exploser pour que apparaisse une autre forme de...
Mm-hmm. De sismique, peut-être.
Oui, c'est
ouais.
ça.
Ouais.
Justement, je Nathanaël, puis après ça, je vais passer la parole à la salle.
J'oublie ce qu'on avait dit. C'est là. En transposant corps et langue, l'espèce se propage autrement. Je me réinvente chaque fois que vous m'adressez la parole. L'élément intrinsèque à l'échange demeure le désir. Le désir et non la pornographie, ni le sadisme, ni les petites liaisons illico. Le désir universel qui enracine l'arbre au sol et l'en délie. Cette même impossibilité et la conviction qu'elle demeure à tout moment possible. Je vous enjoins de lire les yeux fermés, d'aimer le corps ouvert, d'en finir avec le catalogage des sentiments. Il dilue ce qu'ont de mieux à offrir les sens, l'imprévu. Le livre est, doit être, un appel au sens. Il ne reste qu'à le quitter. Le problème de Nathanaël est posé. Il s'agit bel et bien d'un problème de traduction. Une traduction, c'est ce qu'il y a de moins fiable. On finit par en vouloir au texte d'exister. Si Nathanaël n'existe pas, c'est qu'il attend d'exister. C'est que ses gestes demeurent invisibles. Le corps humain est en période de crise, le désir en voie de disparition. Si je vous embrasse, c'est que je ne vous vois pas. Wait a minute, that's not what I said. Le sexe baigne dans l'hermaphrodisme, la traduction de l'écho. Le premier défaut de la langue, c'est qu'elle s'exprime mal. Dans ce sens, Nathanaël est exemplaire. Il est le biais par lequel on saurait tout dire si seulement on apprenait à se taire. Touchez-moi, je disparaîtrai. Écoutez à côté de la voix. Si je dis que je ne lis plus, c'est que je mens. J'allume une flamme près de ce qui risque de prendre feu. On se méfie des petits livres, des livres intimes qui se glissent sans effort dans la poche. Le livre se mesure aux mots. Que dire pourtant de la force de l'écho? Si jadis le mot équivalait au souffle et les poètes se dépêchaient de respirer, aujourd'hui le mot entrave la respiration. Nous respirons tous mal. L'écho en meurt, la preuve. Ce que Nathanaël doit savoir, lui qui tient toujours de silence. Il ramène le mot au corps, prend le souffle dans la main. Ce qu'il prend, il donne. Le livre est sa récompense. On détourne le regard de ce qui est familier, de ce qui est forcément laid. On évite de regarder de près, de toucher. Le livre sert ainsi d'obstacle, se positionne entre moi-même et l'expérience que j'en ferai. Des lèvres de Nathanaël, bois, buvez. Voyez, la soif ne quitte pas le corps. Gide n'était pas dupe, il savait que le possible demeurait possible du moment où il ne tentait rien. Les salles de spectacle sont pleines à craquer, les stades sont bondés, les rivières débordent. Toutes les places sont prises. Nathanaël marche là où personne ne va.
Merci Nathalie.
Merci à toi Catherine.
On va demander aux gens dans la salle s'ils veulent poser des questions ou faire des commentaires.
C'est peut-être plutôt un commentaire, mais aussi avec une question. Parce que vous entendant ce soir, sur la question des langues, entre autres, non seulement vous écrivez français-anglais, mais vous traduisez de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais, ce qui est quand même assez rare, surtout si on, si on était traducteur, linguiste, etc. Il faut choisir absolument dans un sens ou dans l'autre. Vous allez dans un sens comme dans l'autre. Alors, il y aurait une question à savoir, est-ce que ça change quelque chose de traduire du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, ou pour vous, c'est la même problématique? Mais ça, c'est la question que j'avais au début. Mais de façon peut-être plus intéressante, en vous entendant parler, je me suis dit, les extraits que vous avez lus sur déserté, désaccord et tout, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on dirait que vous êtes habité par la figure du déserteur, la personne qui voudrait déserter, qui est habité par le désir de déserter, le pays, ça c'est sûr, d'accord, les filiations, la langue, la littérature, mais qui, par l'écriture, revient quand même toujours à la littérature, enfin, appelons-le comme on veut, donc qui ne déserte jamais tout à fait. Autrement dit, par rapport à une figure comme Rimbaud, on aurait l'impression que parfois, ce serait facile de juste dire, bon, bien, je prends congé, je déserte réellement, j'arrête d'écrire, mais le mot qui revenait dans ce que vous disiez, c'était celui de responsabilité. Comme si, une fois qu'on a commencé, une fois qu'on a commis l'irréparable d'avoir écrit, d'avoir publié, je pense à un texte de Pascal Quignard qui s'appelle le vœu du silence à propos du bavard de René Desforêts, comme si, dans le fond, René Desforêts aurait dû ne jamais écrire, mais à partir du moment où il a écrit, publié, il est trop tard, le vœu du silence est rompu, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas comme Rimbaud, pas déserter, pas dire...
Je vais vendre des armes.
C'est ça, j'arrête, je passe à autre chose, etc. Maintenant, j'ai une responsabilité, je dois continuer. Et j'ai l'impression que tout votre travail entre les langues, dans l'écriture, par rapport à la nation, par rapport aux frontières et tout, c'est comme si vous étiez habité par le désir de déserter, mais que c'est impossible de déserter. Impossible de déserter. Et on revêt quelque chose qui vous... On dirait que vous êtes sur le point de lâcher, mais ça qui vous reprend. Je ne sais pas si ça résonne. Moi, ça me fait... Ça me termine.
Ouais, non, ça me résonne peut-être un peu trop. La question de la traduction, c'est un peu plus simple à répondre à celle-là. En fait, ça dépend des projets. Et ça dépend de mon rapport au texte et à la langue à ce moment-là, parce que c'est toujours en mouvement. Tout ça, c'est jamais... ça ne se solde jamais dans un sens ou dans l'autre. Par contre, la question de la responsabilisation, là, vous me donnez beaucoup à réfléchir là-dessus, parce que je crois que vous avez touché à quelque chose d'un peu difficile. Enfin, mais cette question du... Donc, dans le désir de déserter, il y aurait aussi le désistement. Donc, on est obligatoirement dans la faille ou dans l'échec de ce geste-là. Mais je crois que ça rejoint de toute façon le travail de l'écriture, qui est forcément un échec. Sinon, si on réussissait la chose, on ne recommencerait pas. Là, c'est très intéressant. En fait, j'ai peu à dire, mais je prends ça en moi.
Est-ce qu'il y a une autre question, un autre commentaire? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, toi?
Non.
Non, je voulais juste peut-être rebondir sur la question de Gila, c'est-à-dire que ce qui revient toujours dans ton... En fait, je ne pense pas que tu choisis le mot « ta torture », entre guillemets. Je pense que c'est toujours chez toi la question de la responsabilité. Donc, ça te regarde, et puis après ça, tu ne peux pas faire avec... Tu ne peux pas détourner le regard. Parce que le regard est finalement très important dans ce que tu fais. Et bon, une fois que ça t'a regardé... t'arrives pas, donc c'est pas, tu te poses plus la question est-ce que ça va me rendre malheureuse ou pas, c'est pas de cet ordre-là pour toi, c'est vraiment bon, c'est là, donc je dois continuer à soutenir ce regard. C'est pour ça, je voulais juste t'expliquer, c'était, je trouve que ce regard-là que tu as
face au monde, enfin face, c'est pas le bon mot, mais devant le monde, tu nous donnes un petit peu à... C'est un peu ça que tu nous donnes dans ton œuvre, mm-hmm. c'est-à-dire tu nous demandes des fois de regarder avec toi ou même dans ton œuvre, ce qui est un petit peu difficile, insupportable à regarder. Tu sais, tu conduis les lecteurs et les lectrices à regarder vers là. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur le mot terreur qui t'a fait sursauter. Mm-hmm. Mais il y a quelque chose comme ça quand même. Et je veux juste... Tu sais, il y a quelque chose de... Tu nous offres quelque chose qui est insoutenable à regarder. Mm-hmm. Et bon, il faut le faire avec toi. Donc, c'est pour ça que les gens peuvent dire vos livres sont tristes ou je ne sais pas quoi. Mais je dis juste que ton travail, c'est de nous dire, mais vous devez regarder... Pas vous, là, c'est pas vous, mais c'est pas... Tu t'adresses à personne, mais... Regardons là. Mm-hmm. Voilà. C'est pas juste pour que tu comprennes ce que je voulais non, pas te faire sursauter non. avec le mot terreur.
Non, non, j'ai compris. C'est vrai que moi-même déjà être en face de cette chose est difficile et donc je vais vers cette chose. C'est peut-être une déformation de caractère. Je sais pas. Je pense à et j'oublie comment je l'ai écrit dans Sarah de jeu, mais il y a cette phrase. We go to where the dead lay dying and turned our heads. Mm-hmm. Mais je crois qu'on est un petit peu tous coupables de ça, tous. Et donc, la question c'est de savoir comment envisager, parce que c'est un réflexe, je crois. Parce qu'il y a aussi le regard malsain. Faut pas. Il y a le regard, mais il y a aussi le regard du voyeur. Il y a le regard.
Oui.
Pernicieux, il y a cette façon de se repaître grossièrement de, mm-hmm. du malheur des autres, de ce qui est de fétichiser tout ça aussi. Donc le regard en lui-même n'a rien de pur.
On va s'arrêter là.
Oui.
D'accord, les gens peuvent venir te toucher.